Nous assistons à une recrudescence de cette agitation des comités populaires. Dans telle grande usine, les communistes passent même à l'action terroriste, sans souci de la vie des ouvriers. Et une bombe était récemment déposée dans un atelier. La masse est dressée contre ces pratiques, relevant non d'une doctrine politique, mais de l'aventurisme, dont ont toujours fait preuve, malgré leurs protestations, les dirigeants du Parti communiste, auquel on accola faussement le nom de Français.
Mais ne croyez-vous pas que la classe ouvrière sent instinctivement, avec son bon sens et son expérience habituelle, le guet-apens dans lequel on veut la faire tomber?
C'est exact, mais il faut que nous l'informions davantage encore. Déjà, dans une série de réunions et de conférences, nous avons mis sous les yeux d'une foule attentive des documents irréfutables. Nous continuerons cette propagande jusqu'au moment où le prolétariat des usines fera justice lui-même de ceux qui veulent son malheur, sur lequel ils installeraient le régime du despotisme et de la tyrannie.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec François Ruffin et Maurice Grigel Balrimont.
Flight number 2, arriving from New York.
On prononce Criégel Valrimont, c'est bien ça, ou Criégel Valrimont?
On prononce Maurice Criégel Valrimont pour marquer que en 18, l'Alsace a cessé d'être germanisée. Mes premiers mots de français, c'est en 1918. Quand les troupes françaises à Strasbourg, nous sommes des meutes de gosses de 4 à 8 ans, et nous nous précipitons vers les poilus qui arrivent, et ce sont nos quatre premiers mots de français que nous prononçons tous ensemble. Bonjour papa, salut poilu, ou salut poilu, bonjour papa. Tous les gosses qui sont là, on leur a dit que leur père était soldat. Et ce sont mes premiers mots de français en 1918.
Oui, vous avez bien compté, 92 ans, Maurice Criégel Valrimont, et bon pied, et bon œil, et rire, et surtout une jubilation à vivre, une jubilation à lutter encore et toujours, et une vie exemplaire, une vie comme on aimerait en avoir eu une. Résistant, Maurice Criégel Valrimont est une des grandes figures de la résistance, comme il vient de le dire. Il est né en 1914 en Alsace, très jeune. Il s'engage à lutter contre le fascisme à l'époque, en 1934, il a 20 ans, et le fascisme rôde en France. Le fascisme s'approche, comme il est déjà installé en Allemagne, en Italie, comme il viendra en Espagne un peu plus tard. En 1934, il est tout près, il est parmi nous. Et puis il y aura ce renversement, 1936, le Front Populaire et Maurice Criégel Valrimont, qui ne s'appelle pas encore Valrimont, vous allez voir pourquoi, est aux premières lignes, vibre, participe, s'engage dans le syndicalisme de l'assurance. Il est représentant syndical de la CGT Assurance. Et puis 39, 40, la débâcle. Et puis, comment va-t-il s'engager? Comment va-t-il devenir une des figures de la résistance, compagnon de route du Parti communiste, dont il se détachera par la suite en 1961. Il est surtout une des figures qui a participé au CNR, au Conseil National de la Résistance, qui, au cœur même de la guerre, au creux du désespoir même, eh bien, a été un fabuleux sursaut où les Français, de gauche, de droite, tous ceux qui voulaient que la France fût débarrassée du fascisme, ont imaginé plus loin que le combat une autre France. Et ils ont Imaginez véritablement une autre politique. Ils ont fondé un certain nombre d'institutions dont nous jouissons toujours aujourd'hui, comme la sécurité sociale, les retraites, un certain nombre de droits qui, s'ils ont été en partie repris dans les années qui ont suivi, ont fondé notre France, notre République, la 4e comme la 5e République. Aujourd'hui, ces formidables acquis, cet héritage né de ces luttes est compromis, repris peu à peu, et c'est dire la nécessité d'entendre une voix comme celle de Maurice Criégel-Valrimont, et puis une autre voix qu'on va entendre, celle de la femme qui a écrit le chant des partisans. Elle est morte il y a très peu de temps. Elle s'appelait Anna Marly, et évidemment cette heure lui est dédiée.
Quiconque parmi vous, fonctionnaire, militaire ou simple citoyen, participe au groupe de résistance, compromet l'avenir du pays. Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles. Vous précipiteriez la patrie dans les pires malheurs.
Ici la France. Ici la France.
La levée des couleurs, un drapeau, il y en a de plus grand. Un mât, il y en a de plus haut. Mais ce mât, c'est une branche coupée vivante au tronc d'un arbre des sommets. Et parce que ce mât tordu est un prolongement de la terre, ce n'est plus un drapeau qu'il porte, mais le drapeau. Les scènes que nous voyons ont été tournées par les jeunes gens du Maquis, en plein cœur du royaume de la Gestapo. Qu'elles aient traversé les 20 polices qu'entretiennent Himmler et Darnan sur notre territoire est en soi seul un miracle de courage et d'audace. L'autre miracle, c'est que malgré les 20 polices et les troupes allemandes qui battent de leurs bottes nos villages, nos champs, nos chemins, les jeunes gens de France, chaque jour, montent vers le Maquis, volontaires, toujours plus nombreux pour une vie toujours plus rude, par
Maurice
un,
Schumann.
Par deux, par trois, ils sont aujourd'hui des dizaines de milliers. L'Allemagne a ses camps de concentration, la France a ses camps de liberté. La résistance française avait déjà ses journaux comme elle avait ses héros, elle avait ses livres comme elle avait ses martyrs. Elle a dit « J'aurai mes films » et elle les a eus. Et grâce à elle, vous les voyez. Tous, armées secrètes, francs-tireurs et partisans, corps-francs des mouvements unis de résistance, organisation de résistance de l'armée, maquis, tous forment les forces françaises de l'intérieur.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. la haine à nos tous et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
Tristesse au Bangladesh, comme à Clichy-sous-Bois, c'est la soumission. C'est la soumission à la domination. La tristesse, c'est quand le dominé accepte et même collabore à son propre asservissement. La tristesse, c'est quand on entend la certitude de l'inéluctable. La tristesse, c'est la voix qu'on vient d'entendre, celle de Philippe Pétain, qui incite à la soumission, à la collaboration. Mais il y a aussi l'autre voix qu'on vient d'entendre, là, c'était celle de Maurice Schumann, qui incitait, qui invitait, qui encourageait à la résistance. Évidemment, du courage, il en fallait. Tant ceux qui étaient enclins à résister, Français de toute sensibilité, devaient braver l'insulte d'être des terroristes, des traîtres. Les choses étaient aiguës, les choses étaient féroces, la situation était extrêmement désespérante et violente et espérante aussi pour certains. Et malgré cela, il y a maintenant 62 ans, le 15 mars 1944, le Conseil national de la résistance publiait un programme qui aujourd'hui ferait de ses auteurs des gauchistes allumés, cinglés, tant leurs prétentions semblerait aujourd'hui irréaliste. Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours, le droit d'accès dans le cadre de l'entreprise aux fonctions de direction et d'administration pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires et la participation des travailleurs à la direction de l'économie. Je prends quelques éléments de ce texte qui n'était pas seulement les idées des communistes engagés dans la résistance, mais aussi bien des gaullistes, puisque c'est ce Conseil national de la résistance et ses textes avaient été dirigés tout d'abord par Jean Moulin. Beaucoup d'hommes et de femmes ont participé à cette aventure intellectuelle, politique, humaine, remarquable. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir encore des voix parmi nous de ceux qui ont participé, qui se sont engagés, dont Maurice Criégel-Valrimont, que François Ruffin a rencontré pour nous.
Je voudrais savoir, avant d'entrer dans la résistance, peut-être même avant la guerre, qui était Maurice Criégel-Valrimont ?
Vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce que, en ce qui me concerne, je ne suis pas devenu résistant, je n'ai jamais cessé d'être résistant. Et en fait, étant né à Strasbourg en 1914... Quand j'étais enfant, quand j'étais gamin, nous allions traverser le Rhin à la nage. C'est-à-dire que c'est la porte à côté. Et nous savons ce qui se passe là-bas. Là-bas, il y a des affrontements déjà. Les gens se battent dans les rues avec des armes dans certaines occasions qui sont le signe annonciateur de l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et même avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, en tant qu'étudiant en droit à l'époque, j'étais un jeune antifasciste. Certains de mes professeurs auraient voulu que je fasse une agrégation en droit. Je suis lauréat de la faculté de droit de Strasbourg. Mais moi, j'étais un étudiant relativement avancé et je voulais changer le monde. Alors tout ce qui ne comportait pas cela comme choix essentiel, je n'étais pas d'accord.
Donc vous avez renoncé à faire carrière d'avocat ou
d'agrégation? Absolument, dans toute ma famille et dans mon entourage universitaire.
Et vous avez fait quel choix alors à ce moment-là?
J'ai fait le choix de vouloir changer le monde à moi tout seul.
Peut-être pas tout seul quand même.
Exactement, vous avez tout à fait raison. Non, mais j'ai fait le choix, comme c'est le cas des jeunes un peu ardents, de vouloir participer à des grandes choses. Alors, la vérité, c'est que pour faire ce choix, j'étais en opposition avec mon milieu. J'ai quitté Strasbourg, je suis allé au printemps de 1936. J'ai choisi mon moment, je suis allé à Paris, où il y avait quelques-uns des étudiants que j'avais connus à Strasbourg, et là, comme je ne voulais pas qu'on m'aide, je voulais être indépendant, je choisissais entre acheter de quoi manger et acheter des timbres pour faire des offres d'emploi. Et mes derniers sous sont allés dans les timbres pour écrire dans les contentieux de banque et d'assurance pour trouver du travail. Et c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé du travail un tout petit peu avant mai 36. Et c'est comme ça que je suis devenu employé d'assurance. Et où un jour, mon chef de service m'offre une promotion qui consiste à doubler mon salaire. Et puis je me mets à rire. Et je lui demande s'il sait qu'on a voté pour que je sois secrétaire général de mon syndicat 8 jours avant. Alors il se marre aussi, il rit aussi. Et la conversation s'arrête évidemment là. Mais c'est pas ça qui est important. C'est que très peu de temps après ça, je suis licencié pour insuffisance professionnelle. En 40, je suis mobilisé, et vu l'exode, j'ai vu en Auvergne, j'ai vu des paysans qui vendaient de l'eau pour les bébés. Ça m'a foutu, je les aurais tués. C'était terrible, la situation était terrible. C'était tout à coup, notre France, c'était misérable. Vous allez maintenant me demander pourquoi j'interviens, pourquoi je fais quelque chose. Voilà.
C'est comment devient-on résistant à ce moment-là?
Tout ce que je vis à ce moment-là, pour le jeune homme que je suis, un peu exalté, d'abord un pays occupé. Quand on vous dit « vous êtes un pays libre », ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand il n'est plus libre, ça veut dire quelque chose. C'est terrible, terrible. Tout est terrible. Vous descendez les Champs-Élysées et tout à coup, vous avez une musique militaire allemande à côté de vous et vous êtes obligé de vous ranger. Rien que ça. Vous voulez les assassiner, vous voulez les tuer, vous voulez les supprimer, et c'est eux qui défilent. Et tout est comme ça. Vous avez une image de votre pays, vous avez vécu les Lumières, vous avez aimé les exaltations de la liberté, même ses excès. À cette époque, je n'ai pas encore été communiste du tout, mais je connaissais les hommes. C'était des braves types. Ils avaient raison, ils avaient tort, mais c'était des hommes entièrement dévoués aux autres. Et on les fout en tôle. Je ne peux pas accepter ça. Quand tout est à refuser, il faut dire non.
Une chanson qui dit un mal inguérissable, plus triste qu'à minuit la place d'Italie, pareil au point du jour pour la mélancolie, plus de rêves aux doigts que le marchand de sable, annonçant le plaisir comme un marchand d'oubli. Une chanson vulgaire et douce où la voix baisse comme un amour d'un soir doutant du lendemain. Une chanson qui prend les femmes par la main. Une chanson qu'on dit sous le métro Barbès et qui change à l'étoile et descend à jasmin. C'est Paris, ce théâtre d'ombre que je porte. Mon Paris qu'on ne peut tout à fait m'avoir pris, pas plus qu'on ne peut prendre à des lèvres leurs cris. Que n'aura-t-il fallu pour m'en mettre à la porte? Arrachez-moi le cœur, vous y verrez Paris.
C'est vrai que vous savez que de vous engager, ça comporte des risques, mais il y a un moment où ne plus être un homme, c'est pire que de mourir. La question vient normalement, on dit, mais c'était une petite minorité au début. Ce que ça veut dire. Quand vous prenez les années 40-41, vous avez militairement, les gens plantent des petits drapeaux sur les planisphères ou sur les maps mondes. Les Allemands vont jusqu'au fin fond de la Russie. Même les Italiens occupent l'Afrique. Les Japonais occupent pratiquement toute l'Asie, etc. Les autres avancent partout. Alors vous allez dire à votre voisin, va sur les Champs-Élysées détruire la formation allemande. Ça n'a aucun sens. Donc ne dites pas, il y en a peu. Dites ce qui est vrai. Il y en a quand même et tout de suite. C'est ça la réalité.
Grenoble, où sévit le terrorisme, a été le théâtre d'un grave attentat. La poudrerie de la ville a sauté. Des morts, des blessés, 2000 sinistrés, tout un quartier détruit ou gravement endommagé. Le sang français coule à nouveau, mais cette fois versé par d'autres Français.
Les terroristes, c'était eux. Le terroriste, c'était lui. C'est l'homme que nous écoutons aujourd'hui. Maurice Crégel, Valrimont, 92 ans, qui devait faire face, était en but, lui et d'autres jeunes Français de l'époque, à la propagande gouvernementale dont on vient d'entendre un petit extrait. Comment devient-on résistant? Comment va-t-on vers la résistance? Comment s'engraine cet engagement?
Vous avez ce sentiment d'exaspération quand il y a les Allemands sur les Champs-Élysées. Vous avez cette colère continuelle contre cette occupation. Mais comment va se traduire votre premier acte de résistance, votre entrée en résistance?
C'est un continuum. La vérité, d'une façon ou d'une autre, compte tenu que j'ai des rapports militants avec beaucoup de gens, j'ai une expérience syndicale et politique. Je ne me perce pas d'illusions. Il ne suffit pas que les gens me disent qu'ils sont contre les Allemands pour que je considère que je suis organisé avec eux.
Finalement, avant la guerre, vous étiez dans un tissu syndical et un tissu politique. Ce que vous dites, c'est que ce tissu syndical et ce tissu politique, pendant la guerre, il était, dès l'occupation, il était plus ou moins disponible pour collectivement former un noyau de résistance.
C'est absolument vrai. Ce que vous dites est très important. Très rapidement, une partie des gens qui avaient déjà une activité, sous une forme ou sous une autre, la poursuivent. ils se regroupent, ils se rencontrent, ils parlent, ils commencent à faire quelques petits tracts, etc. Mais ça se reconstitue. Ma femme, celle que vous avez vue à l'entrée, avant la guerre, elle était dans les organisations naturistes, etc., qui ont... Et c'est là que, qu'il y avait des hommes comme Fabien. Mais ils étaient déjà à ce moment-là, ils étaient en rapport. Alors, ce sont des rapports multiformes.
Votre activité en tant que résistant, elle consiste à diffuser des tracts, des journaux, et à organiser plus ou moins une armée, au moins une armée de réserve, une armée de libération.
Des noyaux.
Des noyaux.
Moi, par exemple, je passais mon temps dans les trains de nuit parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Debout. Et j'allais dans toutes les villes de zone sud pour regrouper des éléments capables de diriger les forces militaires. C'était un peu aventureux déjà. Enfin, on faisait, mais on le faisait. Partout, nous arrivons sans difficulté majeure à constituer des états-majors militaires avec des gens ou bien capables ou bien se formant. Enfin, nous le faisons.
Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Bravant le poids, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage. Bravant Laval, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays.
Les Allemands sont en grande difficulté et ils instituent le service du travail obligatoire. Le service de travail obligatoire a été le plus formidable moyen de recrutement de la résistance que nous ayons jamais eu. Jusque-là, une partie de la population, quand on leur disait « ce sont des exaltés, ce sont des cinglés, ce sont des terroristes, ils font leur coup et puis ensuite ils font tuer les gens comme otages », ne les suivait pas. Une partie des gens était impressionnée. Quand on leur a dit « Vos gosses, on va les envoyer dans les usines dont tout le monde savait qu'elles étaient bombardées en Allemagne et on y envoie vos gosses, vous ne les verrez plus et on vous les renverra comme cadavres », et que s'est-il passé ? Nous ne sommes pas restés inertes. Nous avons dit aux gens « Ne donnez pas les gosses et nous vous aiderons à les planquer. » Et nous n'avons pas simplement dit « nous aiderons à les planquer », nous avons organisé le moyen de les soustraire. Nous avons saboté les centres de recrutement, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nous avons organisé une industrie du faux papier par centaines de milliers. Parce que le moins que l'on puisse dire de ces enfants, le moins que l'on puisse dire de ces jeunes gens, c'est qu'il devenait une armée de réserve, mais tout de suite, est disponible et capable d'agir. C'est énorme. Alors, là, vous avez une illustration de ce phénomène qui montre que la division en petits collabos, en petits résistants et en masse inerte, ça n'a pas de sens. Ça ne correspond absolument pas à l'histoire. C'est pas comme ça que ça s'est joué.
Les jeunes travailleurs restant en France ont été placés dans des centres d'application accélérés où ils vont devenir, après un stage de quelques mois, de parfaits ajusteurs ou tourneurs. Ces jeunes pourront être incorporés en France dans des centres industriels ou agricoles aussitôt après la remise du diplôme officiel. Les jeunes gens partis faire leur service du travail ont chaque semaine plusieurs heures de cours qui vont leur permettre, la pratique aidant, d'apprendre rapidement la langue allemande. Le travail dans les ateliers d'apprentissage sous la conduite de contremaîtres expérimentés.
Simplement, là, il y a un moment où il y a quelque chose que je voudrais comprendre, c'est qu'on est dans une lutte de libération, on est dans une lutte de libération nationale, et à un moment, il y a un programme qui surgit, le programme du Conseil National de la Résistance, et qui là n'est plus seulement un programme pour dire nous allons bouter les Allemands hors de France, mais aussi on va instaurer un certain nombre de mesures politiques, de mesures sociales, quand le territoire sera libéré. Alors, comment ça se fait qu'on passe d'une lutte de libération nationale, avec toutes les tendances politiques, à la limite, on pourrait dire à ce moment-là, à une lutte qui va avoir un contenu politique et un contenu social assez important?
Le seul point sur lequel je fais une toute petite réserve, c'est de dire on passe. La vérité, c'est une évolution normale. Les forces institutionnelles manquent à leur mission. Elles cessent d'être les forces dirigeantes. Elles ne dirigent plus rien. C'est ça la donnée réelle. J'ai pas besoin de vous faire un dessin pour l'armée. Mais tout le reste est à l'avenant. Cette très respectable magistrature qui, à l'époque, a une image quasi religieuse. Est-ce que vous savez combien de magistrats ont refusé de prêter serment à Pétain ? Un seul, dans toute la France. Bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La haute administration, les églises, les forces économiques, c'est épouvantable. L'organisation des comités économiques, c'est directement au service des Allemands. Et tout est à l'avenant. C'est pour ça que je vous dis, on ne passe pas. On n'a rien à passer. Ils ne sont pas là. En même temps, il y a déjà, et il ne faut pas le voiler, la résistance dans son ensemble. C'est pas une idylle dans un pré vert avec des pommes rouges et des lunes brillantes. Ce sont des tendances différentes. C'est la France. C'est la France dans sa différence. Et cette différence, il ne faut pas la camoufler. Je ne veux prendre qu'un exemple. Au comité d'action militaire, le militant syndical que je suis rencontre un homme des 200 familles. C'est Jean de Vogüé, c'est un homme des 200 familles, c'est l'industrie sucrière. Il est propriétaire du château de Vaux-le-Vicomte, il est officier supérieur de la Royale. Dans le jargon de l'époque, c'est un ennemi de classe. Mais de quoi lui et moi nous nous apercevons, c'est que dans la mesure où nous voulons la libération du territoire, nous nous rejoignons.
Mais justement, ce qui est surprenant là, dans ce programme du Conseil national de la résistance, c'est qu'on ne se limite pas à la libération du territoire, mais il va y avoir une volonté d'avancée sociale. Et là, on se dit, si vraiment il y avait des gens des 200 familles à l'intérieur de la résistance, comment ça se fait qu'on a un programme qui est fort à gauche?
Mais ça signifie une chose toute simple. Un certain nombre d'hommes, y compris d'origines sociales diverses, prennent conscience de ce qui est majeur du point de vue de l'intérêt national. Patriote, ça veut dire quelque chose. Et je ne revendique pas d'être moi tout seul un patriote. Je ne conteste pas qu'à ce moment-là, de Vogüé est un patriote. Eh oui, mais ça c'est l'histoire. Quand l'histoire grandit, les hommes grandissent avec. et c'est beau à voir. Et c'est beau à voir. D'ailleurs, vous savez bien à quelle vitesse ensuite on revient en arrière. À toute allure. Et en y mettant la cravache.
Pour la première fois, le Conseil national de la résistance parle au peuple de Paris. Monsieur Saillant, secrétaire de la CGT, président du CNR.
Je voudrais que dans les pays alliés, les hommes d'État nous entendent et nous comprennent, nous, de la résistance française. Nous ressentons, CNR, douloureusement, l'injustice qui est faite à notre pays lorsqu'on refuse de reconnaître le gouvernement actuel de la France.
Monsieur Dasquier, du Mouvement de Libération Nationale.
Que les têtes des traîtres tombent, parce que c'est la justice. Que les biens des collaborateurs, des puissants seigneurs des banques et des trusts qui ont trahi, soient confisqués, soient saisis, parce que c'est la justice.
Monsieur Tessier, des syndicats chrétiens.
Le syndicalisme chrétien avait préconisé l'instauration de la démocratie économique par l'établissement à tous les degrés de conseils, comités ou commissions paritaires.
Monsieur Gillot, du Parti communiste.
Pour que la France soit libérée, il faut qu'il n'y ait plus, sur le sol de la patrie, ni un Boche, ni un prêtre.
Voilà, Conseil national de la résistance en mars 1944, avec ce texte que j'évoquais tout à l'heure, qui a été notamment les lignes où on a pu lire la création de la sécurité sociale, la réglementation des conditions d'embauchage et de licenciement, le rétablissement des délégués d'atelier, etc., etc. Eh bien, voilà, on est avec un de ceux qui a vécu cette page d'histoire, et qui n'est pas une histoire abolie, est simplement une histoire trop oubliée et un héritage en grande partie dilapidé. Maurice Krigel, Val Raymond, avec François Ruffin.
Aujourd'hui, quand on veut revenir quand il s'agit de dire qu'on va revenir sur des acquis sociaux, on ne dit pas qu'on va détruire les acquis sociaux, on dit qu'on va faire une réforme, que la réforme va être là pour sauver le système, et que le système est en péril, parce que il y a soit des déficits publics, il y a des déficits commerciaux, il y a un trou dans la caisse de la Sécu, et tout ça se chiffre, est chiffré à chaque fois par les ministères, en millions ou en milliards d'euros. Moi, ce qui me paraît assez surprenant, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez contribué à mettre un système de retraite en place à la Libération. À la Libération, il y a eu la sécurité sociale qui a été mise en place, les retraites... Et tout ça se fait dans un contexte où, là, les déficits publics, c'est même plus la peine d'en parler. J'avais relevé un petit extrait de la situation de la France au moment où vous prenez ces mesures. Donc, on nous dit, en 1944, la France est à genoux. 74 départements ont servi de champ de bataille. La production industrielle ne représente que 29% du niveau de 1929. Les recettes fiscales couvrent à peine 30% des dépenses publiques. La dette nationale a quadruplé. Une foison de billets pourchasse une pénurie de produits. Et donc, c'est dans ce contexte-là que vous êtes complètement inconscient. Vous voulez mettre encore plus la France à genoux. C'est dans ce contexte-là que vous décidez qu'il faut mettre en place une sécurité sociale et des retraites. Mais on a dû penser que...
Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il ne faut pas croire qu'à l'époque, il n'y ait pas des gens qui nous ont dit ce que vous venez de dire. Ils ont dit, vous êtes fous. La France, c'est bien pire que ça. La France n'avait plus de ponts. La France n'avait plus de charbon. La France n'avait plus d'acier. La France n'avait plus d'énergie. Bien, c'est vrai que c'était à peine concevable. Bien, nous sommes passés outre tout bonnement. Nous sommes passés outre et nous avons fait les choses. Alors là, la preuve a été faite. L'investissement social est un investissement économique formidable. Et c'est vrai, je n'ai aucune hésitation à le dire, les 30 glorieuses n'auraient pas été possibles si nous n'avions pas fait cette législation sociale. Historiquement, la chose est démontrée. On pouvait discuter avant. Mais historiquement, on ne peut plus en discuter. C'est grâce à la législation sociale que les progrès ont été accomplis. Ça veut dire tout simplement une chose d'une simplicité puérile. Les gens qui vivent sur le dos des autres, les gens qui bénéficient du travail des autres, les gens qui exploitent les autres, ils n'ont pas de scrupules. Ils sont capables de charité. Mais le fond de leur attitude est de croire que pour vivre, pour que l'humanité fonctionne, il faut qu'il y en ait qui profitent et d'autres qui subissent.
Mais donc vous vous dites, Aujourd'hui, où on vient de nous dire que le poids de la dette publique française, selon les nouvelles normes internationales, a doublé, vous vous dites que ce n'est pas une raison pour ne pas conquérir de nouveaux droits sociaux ?
Je dis plus que ça. Je dis que, dans toute une série de domaines, le fait de donner, de garantir ces droits sociaux, résout le problème posé. Je dis que si on passe de... En fait, 7 millions de gens qui sont hors de circuit du travail, ce qui est le cas. Si on passe simplement à 2 millions de gens, le problème est résolu.
Le mouvement unifié de la Renaissance a tenu à Paris un grand meeting pour l'élection d'une assemblée souveraine, une constitution démocratique et l'application du programme du CNR. Diverses tendances des mouvements de résistance sont ici représentées. Par messieurs Jacques Kayser, Pascal Copeau, le révérend Père Philippe, Pierre Villon, Riegel Valrimont et Emmanuel Dastier.
Et vous, avez contribué à l'écrire en partie, ce programme ?
Oui, j'ai contribué, j'ai écrit il y a très longtemps... que la sécurité sociale était fille de la résistance, directement. Le système de la sécurité sociale pris dans son ensemble est directement issu de ce qui s'est passé à l'époque. C'est clair que l'idée que l'investissement social constitue un investissement économique fait partie de la conception du programme.
Mais donc, à la Libération, il y a un consensus de la droite de l'époque qui se camoufle et qui se passait pour une semi-gauche à l'époque, la droite.
C'est pas ça que je dirais. Je dirais, vous avez raison sur la première partie, elle se camoufle et l'important pour elle, pour garder une part d'influence politique, c'est de ne pas exprimer son désaccord.
Donc ça veut dire que sur un point comme la sécurité sociale, il ne va pas y avoir d'opposition réelle à sa mise en place.
Absolument, mais plus que ça. Jusqu'à ces dernières années, vous pouvez prendre toutes les déclarations gouvernementales. Sans exception, elles commencent par dire « on maintient le système ». Sans exception. Tous commencent par dire « on maintient le système, on le sauve ». La sécurité sociale pénètre à ce point la vie sociale française que l'opposition bille en tête est une manière de se suicider.
Vous, c'est avec tristesse que vous voyez... vous avez le sentiment qu'il y a un héritage qui est en train de se dilapider, comment vous voyez les choses ?
Bien sûr, il y a un aspect qui me fait mal au cœur. Vaille que vaille, l'idée que, comme ancien président de la commission de justice, j'ai participé à la mise en place du système de retraite, j'en étais fier. Je trouvais que c'était bien, que par rapport à la période que j'ai connue, où il n'y avait même pas un quart de la population qui avait un système de retraite, c'était pas brillant ce que nous avons fait, mais c'était mieux. Bien, je regrette qu'il y ait un retour en arrière. Ça me fait mal au cœur de revenir sur des choses que nous considérions comme acquises. Mais dès que vous prenez une vue assez large, le pessimisme n'est pas justifiable.
Vous dites quand on prend un regard un peu plus large, il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Moi, si vous voulez, j'ai le sentiment d'être né et que déjà, quand je suis né, on disait la marée du chômage va redescendre, l'espoir est au bout du tunnel, il suffit de donner un coup de talon et la croissance va repartir. Vous voyez, un certain nombre de phrases rituelles relancées par Balladur, Bérégovois, vous voyez, d'un optimisme un peu forcé, alors que finalement... le chômage n'a cessé d'augmenter et cette augmentation du chômage s'est en permanence accompagnée de reculs sociaux.
Le seul moyen, et c'est ça qui justifie l'optimisme, c'est de s'atteler à la tâche. Si vous vous attelez à la tâche, vous avez de meilleures solutions que dans le cas contraire. J'ai passé une vie d'homme public. Je suis un vieil homme. J'ai 91 ans passés. Bien. C'est pas les gars d'Afrique qui sont heureux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, les vies militantes sont de très belles vies dans la mesure où elles ne sont pas bouffées ni par la vanité ni par l'ambition. Autrement, ça vaut la peine. Autrement, ça vaut la peine.
Un long regard sans rien te dire, pris au hasard de votre chemin, un simple mot dans un sourire a tracé votre destin. L'aventure est au coin de la rue. Aujourd'hui c'est pour moi et demain pour vous. Elle prend dans la foule éperdue, sans choisir au hasard n'importe où. On ne peut s'en défendre, chacun s'y laisse prendre. L'aventure est au coin de la rue. Aujourd'hui c'est pour moi et demain pour vous.
J'ai 30 ans, là, c'est à peu près c'est l'âge que vous aviez à la Libération.
Exactement.
Le climat qui est le climat d'aujourd'hui, c'est un climat de résignation.
Je vais prendre deux moments. En 1934, la France a l'air dans une situation pré-fasciste. Et les fascistes se manifestent et essaient de prendre le pouvoir. Il y a des forces dans l'armée qui sont candidats, il y a la cagoule, etc. C'est sérieux. Et dans l'ensemble, l'état d'esprit n'est pas meilleur qu'aujourd'hui. Ça, c'est 1934. En février 34, c'est la première grande manifestation où se rassemblent les forces syndicales et où ils vont dans l'autre sens. Et en 36, c'est le Front populaire. En 2 ans, non seulement vous avez un recul du fascisme, mais d'une certaine manière, en France, le fascisme est battu. En 2 ans. Si en 34, quelqu'un vous avait dit que 2 ans après, la France, ce serait le Front populaire, on vous aurait rionné. J'imagine, là, j'ai vu quelques-uns de mes gars de l'époque, de mes militants syndicaux, je les ai vus rire. Ils n'auraient pas cru. Ils n'auraient pas cru. Mais ça, c'est rien du tout. En 42, Stalingrad est à portée de la conquête des Allemands. C'est-à-dire, c'est fini. Le monde est sous la botte fasciste en 42. Et en août 44, Paris est libéré. Là, j'ai imaginé, nous avons été dans la même cellule avec Aubrac, avec Ravanel à Lyon. Et si l'un de nous, une nuit, s'était réveillé, vous savez, on n'avait que des matelas et on était trop nombreux pour pouvoir coucher sur le dos. Il fallait être couché sur le côté. S'il y en avait un qui changeait de position, il fallait que tout le monde change de position. Bien. Si l'un de nous avait dit que 2 ans après, Paris serait libéré, les autres auraient passé le reste de la nuit à rigoler. C'était invraisemblable. Et c'est 2 ans. C'est ça ma réponse.
Mais c'est comme s'il y avait aujourd'hui un sentiment d'auto-paralysie de chacun, qu'on s'auto-convainquait que c'est pas possible, alors que finalement, il n'y a pas les Allemands en face. Mais c'est comme si on...
Je suis pleinement d'accord avec vous. Et moi, de ce point de vue-là, d'abord, ma certitude, ça c'est une évidence. Si vous prenez même les 2-3 dernières années... Vous avez connu, il y a quelques années, comme ça, une espèce de morosité insupportable. On s'emmerdait, excusez-moi. Mais c'est vrai. les choses sont devenues plus intéressantes. Il se passe tout le temps quelque chose qui mérite examen, qui mérite qu'on en discute, qui mérite qu'on en parle. On ne s'ennuie plus autant. Et c'est le signe que largement, il y a des tas de gens qui posent des bonnes questions. Ce qui manque encore, c'est les bonnes réponses. Mais les bonnes questions sont très souvent posées. Alors, moi, j'ai du mal à le dire, mais il faut attendre un peu, mais pas trop, parce que c'est un peu tard pour moi.
Vous voulez dire que vous êtes pressé d'assister à ce printemps-là ?
Quand j'étais jeune député, le père Cachin était... il avait 80 ans, c'est-à-dire que maintenant, ce serait un jeune homme pour moi. Mais à l'époque, c'était un très vieux monsieur. Et alors, nous étions quelques jeunes intellectuels comme ça, et ça lui plaisait de retrouver sa propre jeunesse.
Marcel Cachin, c'est ça ?
Marcel Cachin, le dirigeant communiste. Et alors, de temps en temps, il nous prenait par le bras comme ça. Il disait, il faut y aller, il faut vous dépêcher. Moi, je veux le voir, le socialisme. Et nous, on trouvait que c'était bien.
C'est une nouvelle diffusion d'un reportage de François Ruffin pour Là-bas si j'y suis. Merci à Maurice Criégel-Valrimont. À lire Mémoire rebelle de Maurice Criégel-Valrimont et Olivier Biffaut, c'est aux éditions Odile Jacob. À la technique, aujourd'hui, il y avait Sophie Moreno et Patrick Henry. À la mise en onde, Antoine Chao et Yann Chouquet, assisté de Pascal Pascariello. Le chef du répondeur, c'est Christophe Imbert. Le téléphone du répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37.